Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain.
Et maintenant, j'accueille Dominique Brouillette. On dit Brouillette, hein, ou Brouillet?
Brouillet.
Brouillet. Ah, ben là, c'est ça. Parce que là, je savais pas, hein, souvent on dit Brouillette. Ben là, bon, c'est Brouillet. Alors, Dominique Brouillet. Dominique Brouillet, qui a un handicap visuel, mais aussi le pourquoi je voulais l'inviter, c'est parce que Dominique, je l'ai rencontré lorsque je faisais un reportage pour Ami Télé avec les Visionnaires, qui est un club de course pour des personnes en situation de handicap visuel. Et évidemment, ben, ils vont courir avec des voyants, là, des gens qui ont une très bonne vue, qui sont des guides. Et Dominique, je l'avais rencontré et j'avais beaucoup aimé comment il s'impliquait avec les Visionnaires. Et dès que je pensais à mes invités que je voulais amener à Mission Vision, j'ai pensé à Dominique. Allô, Dominique?
Allô?
Ben là, Dominique, moi, je trouve ça vraiment le fun parce que là, on s'était vu pendant le reportage. Mais là, on se voit dans un autre contexte. Et là, en plus, que je voyais que la course, ça commence. Je pense que là, ça ouvrait là, cette semaine ou la semaine prochaine. Fait que je trouvais que le timing était... le momentum était bon pour parler ensemble. Mais Dominique, ça en remonte un petit peu parce que là, j'ai dit que tu as un handicap visuel, mais t'sais, les gens sont tout le temps curieux de c'est quoi ta maladie et en plus, ta vue en ce moment a l'air de quoi aussi parce que tu as encore un résidu visuel, on pourrait dire ça.
Oui, ben c'est quand même un assez bon résidu. En fait,
oui?
Moi, ma maladie, c'est du glaucome.
Ouais.
Que j'ai depuis ma naissance. En fait, je suis né avec des cataractes et après, dans ma jeune enfance, on m'a diagnostiqué le glaucome.
Ouais.
En ce moment, je vois d'un œil à peu près 20 ou 25 %. Je suis pas mal sur la limite légale de l'handicap visuel.
Mm-hmm.
Et il faut savoir aussi que quand j'étais plus jeune, j'avais mes deux yeux puis que, bon, j'ai perdu un œil entre-temps aussi. Mais c'est vraiment du glaucome. Puis vraiment, si je peux décrire un peu comment je vois 20-25 %, des fois, les gens, un chiffre, ça veut rien dire.
Ouais.
Fait que je dirais que je suis capable de prendre les transports en commun sans vraiment utiliser la canne blanche. Je veux dire, comme okay. T'as mentionné, je fais de la course à pied, puis quand même beaucoup d'autres sports aussi, donc je suis quand même très actif. Mes lacunes principales, c'est vraiment pas reconnaître les visages des gens, voir les petits détails, puis aussi naturellement, je peux pas conduire non plus, sinon ça serait un danger public.
Non, ça c'est certain, ça c'est sûr. Mais tu sais, quand tu dis que t'as un glaucome de naissance, bon, le glaucome, c'est que tu perds le champ visuel, toute la vision périphérique, tranquillement, qui rétrécit. Donc, toi, on pourrait dire, c'est un peu comme si tu voyais dans une paille. Bah, peut-être pas dans une paille, mais dans un rouleau de papier de toilette. Là, tu sais, quelque chose comme ça. Là, tu sais, où est-ce que tu as une perte au niveau tout le tour de l'œil, là, tout le tour de la vision.
Puis il faut savoir aussi que c'est pas une maladie tant dégénérative tant que c'est contrôlé aussi.
OK.
Bon, mon œil gauche, justement, pourquoi je l'ai perdu, j'ai eu beaucoup d'opérations. Puis malheureusement, ben des fois quand on touche trop, puis qu'on laisse trop la pression, parce que souvent le glaucome, c'est ça, c'est de la pression. Je sais pas les termes scientifiques pour expliquer le glaucome, mais c'est de la pression qui fait des douleurs assez intensives
dans l'œil. C'est de la pression intraoculaire.
Exactement.
Donc ça se passe à l'intérieur. C'est comme si l'œil, parce que j'en ai eu du glaucome, mais quand j'avais mes opérations, qui n'étaient pas pour le glaucome, mais ça amplifiait la pression. Pis c'est comme si ça fait une sensation que ton œil va éclaté.
Exactement. Puis des grosses migraines.
Ben
puis grosso modo, mon œil gauche, ben la pression a trop monté. Puis après l'opération, mon œil a commencé à s'atrophier. J'ai eu 12 opérations au total, puis c'est vraiment la dernière que ça l'a.
Quand tu dis ça s'est atrophié, ça veut dire toi aussi tu as une prothèse oculaire?
Non, moi j'ai essayé d'en mettre une, mais ça faisait trop mal.
OK.
Non, j'ai vraiment pas été capable. Je pense que ça avait rapport parce qu'on m'a aussi injecté des tubes dans cet œil-là quand j'étais jeune dans mes premières opérations.
Oui.
Mélangé au glaucome, ça faisait vraiment une sensation pas agréable.
Oui.
Donc, je me suis dit. Souvent, la prothèse, j'ai eu l'idée au secondaire parce que veux pas l'esthétique. À cet âge-là, c'est quand même important. Je veux dire, on rencontre nos tu sais, nos premières relations amoureuses.
Oui, tu sais, que là, tu veux plaire, c'est tu ça. Veux séduire.
Mais pendant deux, peut-être, je dirais deux ans, trois ans, j'ai essayé la prothèse. Ils ont fait le moule et tout. Oui. On s'est même pas rendu au stade de peinture là, pour la sensation de l'œil. Je veux dire, j'ai fait des tests, puis vraiment,
ça marchait pas.
Mal, soit ça me piquait, ça pesait. À un moment donné, je suis allé chez le barbier, il y a eu un poil, ça a fait mal pendant... En fait, je l'ai retiré rapidement parce que ça, c'était intense.
Oui.
Fait que je me suis dit, à un moment donné, bon, je préfère que mes prochaines relations amoureuses, ou tu sais, les gens... j'attire les personnes par ma personnalité, non...
Et non par, le fait que t'as
par
un
œil. Avoir... Puis, en plus, un œil, c'est quand même un petit détail. Il y a plein d'autres choses sur l'apparence qu'on peut améliorer, comme le style vestimentaire, la coiffure. Je veux dire, l'œil, c'est comme, au pire, peut-être comme un bouton. C'est quelque chose qui peut énerver un peu, mais je veux dire, je vois même pas tant les défauts de mon œil. Fait que je veux dire, quelqu'un qui jugerait par rapport à ça, ben, je veux pas être en couple avec cette personne-là ou ni ami avec personne-là. Rendu là, c'est superficiel
Un
peu.
De toute façon, t'as des lunettes, fait que ça vient déjà comme un peu camoufler les yeux, là.
Exactement.
Mais là, explique-moi, là, on dirait que je comprends pas. Peut-être parce que c'est parce que je vois pas bien, moi non plus, donc je suis pas en mesure de bien voir ton visage. Mm-hmm. Ça veut-tu dire que t'as un œil et l'autre côté, il n'y a pas d'œil?
Il y a un œil, mais on voit plus comme la pupille. On voit un peu mes tubes. C'est vraiment... Là, il a vraiment rapetissé.
Oui, mais dans le fond... Oui, mais c'est... OK, mais t'as... Si, exemple, là, j'ouvre tes paupières, il y a un œil.
Il y a un œil.
Il y a un globe oculaire.
Il y a un globe oculaire, mais au lieu d'avoir comme une pupille, puis toi, on voit comme juste du blanc.
Hein?
Ouais.
Mais là, attends, on dirait que je comprends pas trop parce que moi, ma situation, c'est pour ça, c'est que moi, par rapport à moi, là, c'est pour ça que je me dis, moi, quand j'ai eu toutes mes opérations, dans un délai quand même assez rapproché, là, j'ai eu 7 opérations en un an et demi, moi, mon œil, c'était des décollements de rétine, donc pas le choix d'opérer parce qu'un décollement de rétine qui n'est pas opéré, ton œil se met à s'atrophier comme un raisin sec.
Ouais.
Et c'est des douleurs atroces, là. C'est même pas, tu sais, c'est pas vivable là, en termes de douleur parce que ton œil se nécrophie, c'est ultra douloureux. Mm-hmm. Mais là, on me disait, justement, faut l'enlever à ce moment-là. Pour moi, c'était on l'enlève. Moi, c'était clair qu'on l'enlevait, cet œil-là, parce qu'il était en train de mourir. Là, toi, t'es-tu en train de me dire que t'as un œil que t'as laissé mourir et que c'était moins douloureux qu'une... Mais ta prothèse, tu l'as mis où, la prothèse, s'il y a un œil? On dirait s'il y a pas d'œil.
En fait, c'est comme un genre de moule qu'on met sur l'œil. C'est comme
sur
un...
l'œil direct?
Ouais, c'est comme un... Tu mets ça comme un verre de contact, un peu.
Ah, OK, non, c'est ça.
Fait que c'est pas une prothèse, je m'excuse, je me suis mal
exprimer. C'est pour ça, c'était plus pour comprendre. Je me disais, comment tu peux avoir une prothèse sur un œil?
Ouais, non, là, ça aurait pas fait sens. Là, c'était comme un moule, mais parce qu'on appelait ça une prothèse, mais j'ai oublié
mais
le
terme.
Mais c'était
pas ça. C'était
comme un moule, ouais.
OK.
Exactement, parce que l'œil, je l'ai encore. Puis je veux dire, il s'est atrophié un peu, mais ce sont mes examens. C'est encore vivant. Parce que sinon, j'imagine que, comme toi, j'aurais senti la douleur.
Oh non, je te le dis.
J'aurais remplacé ça au plus sacré, mais...
Non, c'est pas
dans mon
endurable.
Cas, ça a comme... Tu sais, il y a eu un décollement de rétine, ça, je le sais. C'était ça, ma dernière opération. On m'a même dit que l'œil s'est atrophié. Je sais pas si ça s'atrophie encore, mais je me dis, tant que je sens rien, que
mais t'as pas de douleur.
Même pas. Ou si j'en ai, c'est très occasionnel, puis c'est rien comparé aux douleurs que j'ai eues quand j'étais enfant.
OK.
Fait que je me dis, tant que l'œil, bon, il fonctionne. Je vais pas dire tant qu'il fonctionne parce qu'il fonctionne pas, mais tant qu'il me dérange pas.
Ben oui, tout à fait. Mais non, parce que moi, c'était ça, là, quand il était question de me l'enlever, là, c'est moi, à un moment donné, là, qui a levé la main puis qui a dit, c'est-tu possible de me l'enlever, cet œil-là, là, juste avant, dans ma vie, j'aurais jamais pensé demander aux spécialistes enlever mon œil, mais c'est parce que c'est ça, c'est que vu que c'était associé à de la douleur, c'est là qu'eux autres qui ont dit, ben oui, parce que là, tu sais, je veux dire, je prenais des cocktails de médication et j'avais
pas vivable
autant mal.
Ouais.
Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit, ben non, faut l'enlever. Tandis que là, toi, s'il n'y a pas de douleur, pourquoi l'enlever?
Exactement. Je veux dire, la technologie n'est pas assez avancée encore pour me retrouver la vue de cet œil-là. Fait que je me dis,
ça pourrait.
Ça pourrait un jour peut-être, ça va tellement rapidement, l'évolution, mais je me dis, je vais pas investir de temps, d'argent ou d'énergie pour une prothèse alors que pour l'instant, j'en ai pas besoin. Puis surtout si c'est pour une question d'apparence, c'est comme pas une priorité pour moi.
OK, c'est ça. Mais ça veut dire que cet œil-là, il est là. Il est présent dans ton visage. C'est lequel?
C'est l'œil gauche qui est complètement
aussi, avec. Alors, team œil gauche, aujourd'hui, sans le savoir, c'était toi.
Même nom, même œil.
Mon autre, oui. Même nom, même œil. Et moi aussi, je fais partie de la gang que c'est l'œil l'œil gauche qui est parti, hein, qui a lâché le bateau. Mais là, toi, le tien, ça veut dire que t'as plus du tout de vision dans cet œil-là.
Non, plus du tout.
Vois-tu la lumière? Y a-tu quelque chose ou y a rien?
Même pas. Ça s'est vraiment fait progressivement. Ça a commencé après l'opération que je voyais un peu comme dans un brouillard. Après, c'est devenu flou. Après, c'est devenu gris. Puis là, c'est comme si ça n'existe plus. J'ai un œil. Donc... je me rends même plus compte que je vois plus de cet œil-là.
OK, c'est ça. Ben, lui, il voit plus. Ben, un peu comme moi, mon œil enlevé. C'est comme si c'est terminé, ce côté-là. Il n'y a plus rien. Mais là, ton œil droit, c'est lui qui voit avec une capacité de 25%.
Oui, à peu près.
Donc, c'est ton œil droit qui regarde un peu comme peut-être plus qu'une paille, là, parce qu'une paille, là, c'est mini. Là,
on
mais
va dire comme un rouleau de papier de toilette.
Un papier de toilette, exemple. Ouais. OK. Fait que toi, tu vois comme ça. Mais quand tu regardes à l'intérieur de ton rouleau de papier de toilette, est-ce que c'est clair?
Oh ouais, c'est en masse claire. C'est vraiment plus de voir les petits détails comme... je vais te donner un exemple. Reconnaître les visages, moi, depuis toute ma vie, là, j'ai tellement confondu de monde. À un moment donné, je disais une confidence à mon frère puis je me suis retrouvé avec un inconnu dans le bus parce qu'on rentrait puis là, je vais m'asseoir. Je suis comme, bon, comme je te disais, mon frère est comme, c'est parce que j'étais à l'autre bout.
Oh non! OK, mais tu pensais que c'était ton frère.
Oh ouais, des fois, je confonds comme ça puis faut vraiment que je connaisse très bien la personne puis que je sache qu'elle soit là.
Okay.
Parce que si, admettons, je sais pas, je te donne un exemple, j'arriverai à l'université, quelqu'un me dit « Allô, hey, tu me reconnais-tu? » Je vais peut-être reconnaître dans 30 % du temps si je connais vraiment bien la personne. Comme par exemple, j'ai travaillé avec des collègues à la Fondation des aveugles. J'ai déjà recroisé de ces collègues-là, puis je les ai
jamais reconnus.
La moitié reconnus, mais il y en a même à ça.
Oui.
Même en les connaissant, des fois, je ne reconnais pas. Puis surtout, si ça fait longtemps, si le style vestimentaire, la coupe de cheveux change, il y a plein de facteurs qui jouent. Mais sinon, des petites tâches manuelles... compliqué qui demande une bonne vision.
La précision.
Là. Ouais, je pourrais pas aller faire des bijoux, mettons. Là.
Ouais, c'est ça, là, des petits détails là, qui demandent de la minutie.
C'est ça. La géométrie en maths, les sciences. Là, c'était mes matières préférées.
Et comme exemple, couper un concombre, comment ça va?
Ah, ça, c'est correct. Ça,
mais c'est-tu parce que, dans le fond, c'est que ça se fait automatiquement? Mais exemple, lire un pot d'aspirine, là. Lire les étiquettes.
Ben, c'est sûr qu'on a des adaptations, on a des télévisionneuses, des loupes.
Oui.
Là, même un nouveau truc que j'ai, je veux dire, on peut envoyer des photos à l'intelligence artificielle puis le lit pour nous à cette heure. Ça peut être un bon truc aussi. C'est sûr que, mettons, les dates de péremption, je suis capable de les voir, mais tu sais, des fois, il y a des entreprises qui mettent ça un coin un petit peu perdu de la bouteille ou qui est comme effacé.
Oui, sur du foncé.
Foncé sur du foncé. Pâle sur du pâle.
Ben oui.
Je te dirais que j'ai un peu de difficulté, mais c'est quand même des caractères que je peux lire.
Okay.
Couper un concombre, je veux dire, je cuisine quand même depuis que je vis chez mes parents aussi.
Mm-hmm.
Depuis que j'ai peut-être 14-15 ans, j'en ai 27. Fait qu'à un moment donné, couper des légumes, bon, je coupe peut-être pas comme le chef cuisinier à mon travail, mais tu sais, je veux dire, je suis quand même... Je me coupe pas le doigt non plus.
Non, c'est ça.
On nous donne des trucs.
Mais c'est quand même aussi kinesthésique. Là. C'est dans quand on coupe des légumes, il y a quelque chose où est-ce que ça se fait. On peut couper des légumes les yeux fermés. Là,
ben oui.
On va clairement aller moins vite que le grand chef qui coupe tous ces trucs à une vitesse absolument incroyable. T'sais, on le voit dans les émissions de cuisine, moi, ça me fait un peu tout le temps sursauter. Je me dis, oh mon Dieu, il va se couper la main au complet, t'sais, tellement qu'il coupe vite. Mais c'est
exact.
Parce que nous, on ne peut pas faire ça. Là. Moi aussi, là, si je coupe du cocombe, il n'y en a pas un qui a la même forme. Là. Mais c'est pas grave,
non.
Il est coupé. Là.
Le goût reste le même là, au final.
C'est ça. Mais là, tu parlais de ton... tu sais, un chef là, avec qui tu travailles, mais toi, je pense... tu travailles au noir ou tu as travaillé au noir?
Oui, je travaille au restaurant au noir, qui est un resto.
Tu travailles encore.
Ouais, ouais, où les serveurs ont une déficience visuelle. Dans le fond, c'est dans des salles complètement noires. Il n'y a pas de lumière ni de fenêtre et vraiment les clients vivent. C'est comme une sensibilisation à être complètement non-voyant.
Mais c'est ça, sauf que toi, t'as encore de la vue.
Ouais.
Là, tu travailles tout d'un coup dans une salle noire.
Ouais.
Donc là, t'as dû développer quelque chose toi-même. Parce que...
Ben oui, j'étais le plus désavantagé de mes collègues, mettons, parce que mes collègues ont quand même... Quelques-uns, on est maintenant 5, on a déjà été 7, mais je veux dire...
Aveugle.
Un ou deux qui sont complètement aveugles, puis d'autres qui voient peut-être à 3 %.
OK, c'est toi qui vois le plus.
Je veux dire, je suis lui qui voit le plus, mais je vais vous dire, la deuxième journée, j'avais un collègue qui s'appelait Mathieu. Je dis, « Hey, Mathieu, je suis où? » Puis j'étais perdu dans la salle. Pis...
Dans la salle.
Oh ouais, pendant qu'il y avait les clients, je cherchais la cuisine, justement.
Oui.
Puis ben, les clients ont trouvé ça. J'ai fait la blague, je dis, oh, c'est ma première journée.
Oui.
Mais tu sais... Quand c'est les premières journées, c'est tout à fait normal.
Mais oui.
J'ai bien été encadré, puis finalement, c'est vraiment une question de se fier à son audition, d'être très alerte aussi pour éviter de foncer dans le collègue,
mais
de recevoir les assiettes dessus.
Mon Dieu.
C'est pas pour rien que des fois, on entend tout le temps « attention, attention
oui. »
quand les clients viennent manger. C'est vraiment le mode de communication des serveurs pour éviter une collision.
Mm-hmm.
Puis... Je veux dire, de se concentrer, se rappeler des plats qu'on sent. Je veux te dire, d'avoir 12 verres de vin différents à retenir puis monter au deuxième étage. J'ai l'avantage de voir les escaliers quand je monte au deuxième étage.
Oui.
Mais se rappeler de tout ça, là, c'est tout un défi.
Bien, oui, mais c'est ça. Mais c'est là, je trouve que c'est fascinant parce que c'est comme si tu t'as plongé dans un univers qui fait pas partie de ton quotidien parce que ton quotidien n'est pas dans la noirceur totale, ce qui veut dire qu'il y a plein de choses que tu fais encore parce que tu les vois.
Mm-hmm.
Et là, tout d'un coup, tu t'en vas travailler dans un contexte. Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu es allé travailler au noir? Moi, j'aurais jamais eu j'aurais jamais même pensé aller travailler au noir parce que je me dis, je vois encore, fait que tant qu'à ça, je vais aller me préparer, tu sais, je vais me pratiquer à travailler dans un restaurant traditionnel ou est-ce que c'est pour des voyants, mais je vais m'adapter.
Mm-hmm.
Mais là, toi, t'es comme allé à l'autre bord, à l'inverse. Qu'est-ce qui fait que t'es allé au noir?
Ben, il y a plusieurs raisons. Premièrement, ça s'est produit un petit peu dans une phase où je déménageais à Montréal parce qu'avant, j'habitais à Blainville, qui est comme... je veux dire, c'est en transport en commun, c'est beaucoup moins... c'est plus compliqué de se déplacer, mettons, qu'à Montréal, il n'y a pas de métro.
Oui.
C'est moins desservi.
Oui.
Puis je voulais prendre mon envol, partir de chez mes parents aussi. J'ai déjà travaillé aussi comme serveur dans un restaurant régulier avant. Puis c'était un restaurant comme un petit peu avec moins de moyens. C'était vraiment chouette comme expérience, mais je veux dire, des fois, je pouvais être tout seul puis servir 50 personnes.
Oh, quand même.
Comme en l'espace de quelques heures. Comme, bon, c'était un buffet, c'était comme moitié buffet, moitié à la carte. Mais ça m'a vraiment forgé comme serveur. Puis je me suis dit, au noir, c'était un petit peu plus payant, c'était moins d'heures. Puis vu que je fais des études supérieures en même temps, j'étais au cégep quand je travaillais au noir, maintenant, j'étais à l'université. Je trouve que travailler à ce restaurant-là, c'est un bon complément. On peut travailler 15-20 heures, payer son loyer puis continuer de faire les études. Puis il faut savoir qu'en plus, j'ai eu deux jobs en même temps à cette période-là aussi.
Oui, mais le fond, ton objectif de travailler au noir, c'est parce que c'est pour finalement payer ton loyer par rapport au fait que tu étudies.
Ben oui, exactement, parce que c'est moins d'heures qu'une job régulière. Exactement, parce que fois, il y a des emplois que, surtout étudiants, je pense, on va comparer, mettons, à McDo, que c'est le salaire minimum. Ben, un étudiant doit peut-être des fois travailler 25, 30 heures, tu sais, pour vivre serré, si je pourrais dire ça comme ça.
Oui.
À Honor, j'ai quand même une certaine qualité de vie qui fait que je peux travailler 15, 20 heures, puis... quand même étudier à temps plein, là. Fait que, je veux dire,
quand même,
pour atteindre ses objectifs, c'est vraiment parfait. Comme...
Que tu étudies à temps plein?
Maintenant, oui. Parce que
Oui, mais t'es pas travailleur social, je sais pas quoi. Ça, j'avais vu quelque chose par rapport à ça.
Ben, c'est ça l'affaire. En fait, je suis quelqu'un qui était très indécis avant, puis j'ai fait une technique en travail social et...
Voilà,
t'étais pas dans le champ, mais bon, après ça, à l'université, si je résume rapidement, il y a été une année que j'ai été un peu perdu, que j'essayais de rentrer dans le bac en travail social en faisant des cours un peu au hasard. Après ça, ça m'a mené à un certificat en gérontologie qui est l'étude du vieillissement de la population.
Mais en lien avec le travail social?
Oui, parce que c'était quand même connexe.
Oui.
Et là, maintenant, ben, avec certains obstacles liés à l'embauche, notamment, je me suis juste dit, je vais changer
social?
De carrière.
Du
ouais,
travail ouais. social? Parce que là, tu t'es-tu retrouvé à justement, parce que dans le fond, vu que t'as l'étude, là, t'as la technique, là. Moi, j'ai une technique en éducation spécialisée et je sais très bien de quoi tu parles au niveau des obstacles et des murs. Et on a l'impression que c'est un domaine qui est tellement ouvert et accessible et finalement, ouf, c'est complètement autre chose parce que c'est comme si nous, on doit être, avec une clientèle, on travaille avec une clientèle qu'on doit constamment adapter, que ça soit le plus intégré, inclusif. Puis là, finalement, quand c'est nous, comme intervenants, qu'on aurait besoin que le milieu s'adapte, ben là, tout d'un coup, c'est comme si, ben voyons, ça marche pas. En tout cas, moi, c'est vraiment ça que j'ai vécu. Ça veut dire que toi, avec tes études, ta technique, tu pouvais travailler dans toutes sortes de milieux, mais finalement, ton handicap visuel devenait un problème.
En fait, je l'ai fait. J'ai travaillé comme intervenant socio-communautaire dans un OBNL d'habitation pour aînés.
Oui.
C'était vraiment une chouette expérience. J'ai travaillé 4 ans là quand même. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est ben, ce que tu dis est totalement vrai. Puis c'est exactement ce que j'ai vécu avec un détail de plus. En fait, avec mes 4 ans, je me suis juste dit, avant de faire un bac en travail social, parce qu'à un moment donné, rendu à 26 ans, l'école, ça devient un petit peu lassant aussi.
Oui.
Fait que là, je me suis dit, je veux-tu vraiment m'engager dans un bac en travail social?
Ah.
Fait que je voulais aller dans le secteur de la santé, là, un petit peu plus pour Santé Québec, là, dans les CLSC et tout ça.
Oui.
Parce que je trouvais que le communautaire, c'est des belles expériences côté humain, mais des fois, pour joindre les deux bouts, c'est compliqué un petit peu.
Oui, des petits
Donc,
salaires, on va se
dire. Je voulais aller... j'ai fait quelques démarches pour le CLSC, mais ce que je trouve fou, c'est que, oui, il y a tes points que tu mentionnes, mais le problème, c'est que c'est moi qui amenais les adaptations. Je leur donnais tous mes besoins déjà. Ce que j'avais même les solutions pour eux.
Oui.
Je vais te donner un exemple clé.
Oh, oui, t'arrives quasiment avec tout ton kit.
J'avais tout. Je postulais pour justement évaluer des aînés dans un hôpital parce que j'avais le certificat en gérontologie.
Mm-hmm.
J'avais l'expérience avec des aînés, mais tu sais, avec l'expérience, une technique puis un certificat, avec un secteur qui pense manquer de main-d'œuvre puis qui nous dit ça à tout bout de champ.
Oui.
J'arrive avec mes solutions. En plus, on m'a discriminé parce que j'avais pas d'auto, mais
le
trajet, c'était l'hôpital Notre-Dame à Maisonneuve qui est quasiment plus rapide en transport en commun.
Mm-hmm.
J'étais comme rendu là avec le CIT qui est la subvention qu'ils peuvent avoir, qui fait qu'ils peuvent me payer 2 fois moins cher de leur poche.
Oui.
Ben, ça aurait pu payer au pire le transport s'ils sont vraiment pressés.
Exact.
Mais encore là, le métro... c'est rapide, je sais où sont les 2 hôpitaux.
Oui.
Je leur ai dit, puis si t'as une urgence puis que je vais me déplacer plusieurs fois par jour, fine, je vais prendre un transport adapté ou un taxi, un Uber avec la subvention. Je veux dire, même aux communautaires, c'était plus généreux que ça en termes d'adaptation.
Oui.
Fait, ça m'a comme frustré parce que, comme tu dis, c'est un secteur qui se vante d'être quand même inclusif.
Déjà,
qui favorise ça, mais quand on arrive, ben même si on a nos solutions, on sous-estime nos capacités parce que souvent les gens s'imaginent avoir notre vision puis ils vont faire « Ah ben là, si j'avais cette vision-là, je serais pas capable avec cette clientèle-là. » C'est un peu biaisé. Puis même quand j'étais étudiant en travail social, j'avais un cours d'animation. « Ben, comment tu vas faire dans un stage? » J'étais avec des étudiants. J'étais allé dans une école de troubles oppositionnels de troubles de comportement. Puis son scénario s'est réalisé. Puis oui, OK, j'avais un peu de difficulté pour voir l'élève qui roulait son joint derrière la classe, mais tu sais, ça m'empêche pas de faire mon travail.
Non. Puis en même temps, moi, je trouve ça super important de le dire, là, c'est qu'on développe d'autres stratégies. Parce que moi, je travaillais avec des jeunes, des petits pop-up là, que j'appelais, là, qui pétaient des coches là, au primaire. Là, et tous les matins, moi, je me promenais, j'allais voir mes petits cocos, puis je disais « Hey, salut, comment ça va? » Puis mon cerveau était modulé à reconnaître comment il était habillé. Et je savais précisément, mais de proche, là, j'allais les voir en proximité. Ce qui fait que moi, après ça, j'étais capable de savoir que mon petit Vincent, ben, il était habillé avec une chemise bleue carottée, puis qu'il avait des petites bottes brunes.
On trouve nos trucs.
J'avais des trucs.
On trouve nos trucs.
Ça veut dire
exactement.
Que de loin, je voyais une petite tache bleue, là. Je savais que c'était lui. J'avais même pas besoin d'essayer de forcer des yeux. Fait que c'est pour ça, c'est comme si le milieu, finalement, eux autres, ils pensent qu'on y arrivera pas parce qu'on fera pas ça de la même façon.
Exactement.
Mais là,
exactement.
Ça veut dire que là, toi, en ce moment, t'étudies quoi?
Là, je me suis réorienté dans un bac en gestion des ressources humaines.
Bon, complètement autre chose.
Ah oh, ouais. C'est connexe un petit peu, mais l'autre côté de la médaille.
Oui, oui, c'est ça, exactement. Ça veut dire que toi, tu peux travailler, aider des personnes qui vont faire des demandes puis qui sont en situation de handicap. Tu sais, de dire, au niveau des ressources humaines, oui, on pourra avoir cette personne-là qui vient travailler avec nous. C'est un peu ça.
Oui, exactement, exactement.
OK. Fait que,
mais bien là, autre devoir.
Mais là, dans le fond, c'est ça. Fait que là, tu t'es réorienté.
C'est ça.
Là, tu es là-dedans en ce moment, tu étudies. Tu travailles au noir parce que c'est ton métier d'étudiant.
C'est ça.
Et tu cours aussi, tu t'impliques avec les visionnaires. Donc ça, c'est un club de course où est-ce que tu cours avec beaucoup... Tu cours beaucoup là-bas, à la piste Étienne Desmarteaux, mais aussi tu cours beaucoup personnellement aussi. Là, tu vas t'impliquer, tu vas faire différents événements. T'es vraiment beaucoup dans la course, là.
Ben oui. Non, je suis quelqu'un de très actif, je veux dire.
Très.
C'est sûr que, puis dis-toi, j'ai même couru presque tout l'hiver. Si on enlève la semaine qu'il y a eu deux tempêtes de neige de suite, mis à part cette semaine-là et la semaine qui suit, sinon j'ai couru tout l'hiver.
Mais tu courais tout seul?
Oh ouais, je cours tout seul sans problème. Je vois assez pour ça. Je veux dire, je connais mon parcours par cœur.
C'est ça.
À un moment donné, on finit par trouver nos trucs. Des fois, je peux être créatif puis faire une petite boucle de plus.
Ouais.
Les visionnaires, j'y vais un petit peu pour le social, puis même que cet été, le club va fusionner avec le club des Pélicans de
Rosemont. Oui, c'est ça, je voyais.
C'est sûr que ça va faire un petit social, puis mettons, pour faire des sprints, d'avoir un entraînement plus structuré.
Mm-hmm.
C'est vraiment chouette comme
club.
Mais là,
c'est-tu toi
aussi
qui vas le structurer?
Non, parce que, j'ai fait l'expérience l'été passé de l'idée, les visionnaires, puis... Très belle expérience quand même, j'ai beaucoup aimé.
T'es
sauf
très
que
bon.
Ça demande quand même une bonne implication. Puis avec le bac maintenant, c'est sûr que c'est un bon défi parce que je refais un petit aller vite fait, mais tu sais, comparé, mettons, aux études en intervention, il y a quand même des notions d'administration, des notions plus touchées du management, beaucoup de par cœur, des mathématiques.
Oui.
Fait qu'on s'entend que mentalement, c'est beaucoup. On passe de peut-être 30 pages par semaine à 200 pages par semaine.
C'est exigeant, c'est ça.
Fait que ça demande un bon travail. Fait que l'été, je préfère... j'ai des cours d'été en plus. Puis sinon, le mois ou deux que j'aurai, de me reposer parce que c'est quand même important de se ressourcer.
Oui.
Puis je préfère être
participant. Je dois t'arrêter, Dominique, parce que c'est la fin de l'émission.
Oui.
Merci infiniment d'être venu. Et moi, je remercie Dominique Sion qui était là juste avant, Mathieu Tessier à la mise en onde. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Dominique.
Merci.
Merci, bye-bye.